Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ingénieur Avenir. Dans cet épisode, je reçois Romain Simondet. On va parler de barrages, d'hydroélectricité et de maintenance d'équipements électriques hors normes. Bonne écoute! Bonjour Romain et bienvenue dans le podcast Ingénieur Avenir, ça va?
Ouais, très bien, merci. Merci de m'avoir invité.
Bah avec plaisir, écoute. Romain, tu as 26 ans et tu as été diplômé du département génie électrique à l'INSA de Lyon en 2019. Depuis l'obtention de ton diplôme il y a 3 ans, tu travailles sur les barrages de la Compagnie Nationale du Rhône sur le poste d'ingénieur maintenance électricité. Alors pour commencer, avant de plonger dans ce que c'est ton métier, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la Compagnie Nationale du Rhône ?
Alors, la Compagnie Nationale du Rhône, c'est une entreprise d'à peu près 1500 personnes du secteur en fait semi-public. Donc, c'est une entreprise qui appartient à 51% à l'État et on va dire 49% au groupe Engie. Donc, on fait partie du secteur en fait des IEG, industrie électrique et gazière. Et aujourd'hui, donc la CNR est basée dans plusieurs domaines de production d'énergie. C'est le premier producteur d'énergie verte en France. Voilà. Donc il est 100% de son énergie est produit à partir d'énergie verte. Voilà. Donc il y a la première partie, donc le principal de la Compagnie Nationale du Rhône, c'est ce qui fait sa base, d'où le nom, c'est la production d'énergie via les barrages hydroélectriques qui sont basés sur le Rhône. Donc depuis Genève, donc un peu en dessous de Genève, jusqu'à Nîmes, donc Valabrec, c'est le dernier aménagement. Donc il y a environ 18 aménagements qui sont basés sur le Rhône au fil de l'eau et qui permettent du coup la production d'énergie. Voilà. Donc ça c'est le premier maillon. Et ensuite, donc la CNR se développe aussi dans tout ce qui est production d'énergie, on va dire ENR, énergie verte, on va dire comme le panneau photovoltaïque. L'éolien, donc ils ont racheté des parcs éoliens et photovoltaïques où ils en implantent. Donc à la fois sur le périmètre de concession du Rhône, mais également sur d'autres périmètres partout en France. Quoi. Voilà. Et enfin, donc j'en ai pas parlé au début, donc on est aussi, on joue le rôle d'assistance à maîtrise d'ouvrage ou de maîtrise d'œuvre sur des projets à l'international. Ça veut dire que on donne un peu notre savoir sur des projets, par exemple, de construction de barrages en Afrique ou de construction d'écluses au Panama. C'est ce qui s'est passé dans les années précédentes. Donc, il y a un service vraiment approprié qui permet de développer ces projets. Voilà. Et, donc, on exploite et on va dire on construit des nouvelles installations.
Ok, ouais. Est-ce que ça veut dire que du coup, les installations en France sur le Rhône, elles sont construites par la Compagnie Nationale du Rhône ?
Exactement. Ça a été construit, donc les premières installations ont été construites dans les années, fin des années 40. Donc 46, c'est le premier barrage qui a été construit, donc celui de Génicia. Et après, ils ont construit donc, petit à petit, donc 52, 57. Donc ils ont construit après dans le Bas-Rhône. Et c'est la Compagnie Nationale du Rhône qui a construit ces barrages. Donc quand vous allez regarder les plans dans les archives, vous trouvez des vieux plans, vous voyez vraiment CNR, vraiment qui est constructeur. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on a vraiment le savoir, on va dire, on a encore toutes les archives qui sont chez nous, mais également, après, la complexité, c'est que compte tenu qu'en 1946, il y a eu la nationalisation, donc la création d'EDF, c'était EDF qui est devenu exploitant. Donc nous, on avait construit, et EDF était exploitant. Et CNR, ils ont eu un peu une particularité, donc ils n'ont pas été intégrés à EDF, d'où aujourd'hui la présence de notre entreprise. Voilà. Et c'est que depuis, on va dire, 2006, où CNR a repris la totalité de l'exploitation des ouvrages. C'est-à-dire qu'avant, EDF gérait la partie, on va dire, production d'énergie, etc. Et CNR gérait juste, on va dire, la partie de navigation et la concession. Mais en gros, aujourd'hui, CNR a repris la totalité des ouvrages hydroélectriques. Donc ça, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on est vraiment à 100% sur nos ouvrages, quoi. Voilà.
Ok. Est-ce que ça veut dire que c'est l'entreprise qui construit, donc qui gère et qui exploite, c'est-à-dire après en vendant l'électricité à EDF ?
En fait, c'est assez compliqué. C'est-à-dire que on peut construire des ouvrages, mais on peut pas forcément être exploitant. C'est-à-dire que c'est l'État qui va définir via une concession qui est fournie à l'entreprise. C'est-à-dire qu'au début, bah, c'était EDF, parce qu'ils ont dit bah, on met une seule entreprise dans toute la France, donc il y a le nucléaire, les barrages, tout, EDF. Et après, bah, comme au début des années 2000, bah, on a voulu ouvrir à la concurrence. Donc plein de producteurs sont arrivés sur le marché. Et du coup, bah, EDF, petit à petit, ils se sont concentrés plutôt sur le nucléaire et un petit peu encore quelques ouvrages hydroélectriques. Mais du coup, ça a permis en fait à CNR de reprendre, on va dire, le marché, même s'il y avait d'autres entreprises en concurrence. C'est-à-dire qu'en 2006, lorsque CNR a repris, il y avait d'autres entreprises qui avaient postulé pour le poste de concession. C'est-à-dire que l'État, c'est comme les autoroutes, hein, ils vont dire « Ok, on vous fournit pour 20 ans les ouvrages ». Ils nous appartiennent, mais vous les exploitez. Voilà. Et après, bah, par contre, vous êtes imposé dans le contrat de concession. Vous devez, comme pour les autoroutes, hein, faire des investissements, faire des améliorations, comme des constructions d'usines, des rénovations, etc. Et derrière, on va vous donner des comptes. Et si ça a été suivi, bah, on peut vous faire confiance. Et sinon, bah, on risque de perdre le marché pour les prochaines décennies, quoi. Voilà. Donc l'intérêt, par exemple, en 2022, pardon, on a réussi à obtenir donc la prolongation de la concession pour 20 ans. Donc jusqu'en 2041, on a la concession du Rhône. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on a pas une reconduction, mais pas pas un nouveau marché. C'est-à-dire que comme au début des années, on va dire 46 et juste après, on a perdu du temps du fait des constructions des usines, etc. Bah, ça a entraîné des pertes de production. Et en fait, ça, on a réussi à les faire peser sur la balance pour dire, écoutez, on a quand même pas mal investi de temps dans la construction, etc., des usines. Est-ce que derrière, on peut avoir la prolongation? Et l'État a accordé, du coup, ceci. Voilà. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on a une visibilité sur le long terme, quoi, sur les 20 ans à venir. J'espère avoir été clair, parce que c'est que c'est un peu compliqué. J'essaie un peu de synthétiser, mais c'est pas facile, on va dire, de différencier les concessionnaires et après la partie production et on va dire fournisseur de l'énergie, quoi. C'est totalement différent.
Ouais. Ok. Mais finalement, dans le cas de la CNR, vous êtes à la fois concessionnaire et gestionnaire de.
Concessionnaire et aussi, bah, du coup, on est concessionnaire. Et du coup, on vend l'énergie, on ne la vend pas à EDF, on la vend, on va être sur un marché boursier. C'est un peu aujourd'hui, c'est un peu on est un peu très, très tendu aujourd'hui. On en parle beaucoup dans les médias du marché qui se tend avec la montée des prix de l'énergie, les montées de l'électricité avec les prix spot, on va dire. Donc, en fait, il y a deux marchés. Il y a le marché de gros. Donc ça, c'est le marché vraiment à long terme. On va vendre, en fait, l'énergie via des traders. C'est-à-dire que les traders vont acheter de l'énergie et ils vont la revendre. Et après, donc, on va avoir un prix spot, c'est le prix instantané. C'est-à-dire qu'à l'instant T, on va avoir, bah, aujourd'hui, on est à peu près à 500 euros le mégawattheure, alors qu'en 2019, on était à 50. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a des contraintes, vraiment des grosses tensions. Et l'intérêt, pour nous, producteurs, c'est de définir d'anticiper la production et de ne pas trop surestimer. C'est-à-dire qu'on va vendre, par exemple, pour tel mois, tant de mégawattheures, il faut qu'on puisse les produire. Parce que si on les produit pas, ben, on aura trop vendu d'énergie et il faudra qu'on l'achète. Parce que ce qu'on a vendu, par exemple, si on a vendu 10 mégawattheures et si on en a produit 5, les 5 autres, faut qu'on les achète ailleurs et en fait, on va les acheter au prix du marché. Du coup, on va être déficitaire. Donc, ça, c'est un peu ce qui est difficile. Nous, on a l'avantageux, c'est qu'on est producteur, mais il peut y avoir des gens sur le marché qui sont juste acheteurs. Donc là, par contre, faut pas qu'ils se plantent parce que du coup, eux, ils peuvent être en faillite. Voilà.
Ouais. D'accord.
Donc, nous, quand même, on est quand même pas mal lotis.
Ouais. Et en plus, l'électricité, ça se stocke pas, donc tu peux pas en acheter et te dire que c'est pas grave, tu la vendras plus tard ou.
Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaie de développer via. Je sais que nous, on a eu des projets qui sont pas forcément. Qui n'ont pas forcément abouti, par exemple, utiliser nous sur le parc CNR les voitures électriques qu'on branche sur les bornes pour qu'elles soient, on va dire, des stocks tampons. C'est-à-dire que si on a des surplus d'énergie, on fait recharger les voitures et après on les décharge lorsqu'on en a besoin. Ça, c'est potentiellement une bonne possibilité. Par contre, c'est pas encore assez développé. Je sais que Tesla ou d'autres fournisseurs, ils essaient de développer ceci avec des bornes intelligentes, mais c'est qu'en phase de test. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, stocker l'énergie, mis à part avec l'énergie potentielle dans les barrages, on peut pas forcément stocker, quoi. Et surtout que si on a des batteries immenses, c'est infaisable. Déjà, en termes de coût énergétique, on serait totalement hors des clous, quoi. C'est pas possible.
Est-ce que tu peux nous décrire les différents types de barrages qui existent ?
Alors aujourd'hui, il y a trois types de barrages. Il y a les barrages en haute chute, donc avec des turbines, on appelle ça des peltons. C'est des turbines avec des formes de cuillère en fait, où on va injecter des jets à très haute pression avec à l'aide d'une conduite forcée. C'est-à-dire qu'on va avoir un lac de retenue en haut, une conduite forcée qui va entraîner ensuite une turbine qui va tourner très très vite. Donc ça, c'est permet en fait, ces premiers barrages permettent de produire lors des pics de production. On va dire qu'on essaie de stocker l'énergie en haut et on va essayer de produire lorsqu'on a vraiment besoin, le soir, le matin, en début de semaine, on va utiliser ces barrages. Après, on a barrage moyenne chute. Donc c'est des turbines beaucoup plus, un peu plus, avec différents un profil différent et des conduites qui sont un peu plus courtes. Là, on a une hauteur de chute qui est un peu moindre. Ça permet aussi de stocker l'énergie. Donc ça, ça dépend vraiment du profil en fait de la montagne et du cours d'eau. Voilà. Et après le dernier, donc c'est ce qu'on a beaucoup chez nous à la CNR, c'est les turbines, on va dire au fil de l'eau, les usines au fil de l'eau. Et là, en fait, c'est des turbines qui tournent en permanence. C'est-à-dire qu'on est à des vitesses de rotation qui sont très faibles. On est à peu près à 80 tours minute. Par contre, on a des gros débits. On a beaucoup d'eau qui passe et c'est le débit qui fait tourner, qui fait produire en fait. Donc on a la hauteur de chute, on est à peu près à 10 mètres jusqu'à 18 mètres, 20 mètres maximum, mais c'est vraiment dans les cas, dans les grosses usines, mais sinon on est autour de 10-12 mètres on va dire. Donc c'est pas la hauteur de chute qui fait la production, c'est le débit. Voilà. On a à peu près 250 mètres cubes par groupe en gros.
Ok. Et donc sur de la haute chute, ce sera un barrage en montagne, par exemple, tandis que au fil de l'eau, c'est plus ton cas parce que c'est quelque chose sur un fleuve où on a peu de dénivelé mais beaucoup d'eau.
C'est sur un fleuve avec des, par exemple, exactement, ça colle déjà le lit du fleuve est beaucoup plus, le fleuve est beaucoup plus large, alors que la haute chute, ben, on sait souvent des lacs de retenue qu'on a en haut ou des lacs artificiels, c'est qu'on a en fait en haute chute, on peut avoir des systèmes de step. On appelle ça des steppes, c'est des lacs, c'est des usines qui fonctionnent dans les deux sens. Ça veut dire qu'on produit de l'énergie avec de l'eau en vide, le lac fait de retenue, et en heure creuse, on va remonter, donc on va faire tourner les turbines dans l'autre sens, on va repomper pour remonter l'eau dans le lac. Donc ça, c'est ce qu'on a par exemple au barrage EDF de Grand Maison, qui est dans les Alpes, et là, c'est un barrage qui fonctionne, une usine qui fonctionne dans les deux sens. Donc on pompe en heure creuse, et on turbine en heure de pointe, on va dire. Donc c'est pas forcément très, on va dire en termes d'optimisation de rendement, c'est moyen parce que du coup on est obligé de consommer l'électricité en heure creuse. Mais par contre, ça permet de faire face à des pics de production lorsqu'on en a besoin, quoi.
Ouais. Et puis c'est une grosse batterie finalement, en fait.
Exactement, c'est exactement ça. Et c'est aujourd'hui la meilleure façon de stocker l'énergie, c'est l'énergie potentielle, l'énergie de l'eau, voilà.
et juste question un peu à part, mais enfin ça, tu sais si ça a un bon rendement le fait de remonter de l'eau comme ça?
Le rendement, enfin le rendement, on va dire, ça consomme quand même pas mal, hein, en heure creuse. Hein. Donc après c'est moins dérangeant parce que derrière c'est les centrales nucléaires qui vont pallier, on va dire, à la production. Mais c'est vrai que en heure, c'est pas forcément l'optimal. Mais c'est vrai que après, c'est totalement, on va dire, c'est une énergie saine. On va quand même on consomme juste de l'énergie. Donc c'est à dire qu'à la fin, le rapport production consommation, comme on va consommer un peu plus, il va être un peu plus petit. On va avoir un petit plus petit delta.
Ouais. Ok. Voilà. Et passons du coup à ton métier, à toi. Donc l'intitulé de ton poste, c'est ingénieur maintenance électricité. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, aujourd'hui, donc, en fait, donc, à la CNR, il y a aujourd'hui un pôle maintenance. Donc, on distingue déjà trois maintenances. Une maintenance de niveau 1 qui est faite par les exploitants qui sont sur site. vraiment des maintenances de base, des remplacements d'équipements standards. Après, on a des maintenances niveau 2 où on va avoir des remplacements d'armoires, des choses vraiment plus standardisées, mais qui restent toujours des maintenances plus faciles. Et ensuite, maintenance niveau 3, donc ça, c'est des grosses maintenances, des arrêts vraiment prolongés sur plusieurs mois, et c'est les travaux qui sont réalisés dans mon service. Donc moi, je suis dans le service maintenance équipe projet. Donc on est divisé par on va dire, domaine d'activité. Électricité, donc on a le courant faible qui gère plutôt les armoires automates, contrôle commande, on va avoir plutôt les TGBT basse tension.
Alors, t'as dit des gros mots là, est-ce que tu peux expliquer contrôle commande, TGBT?
Ouais, on va essayer d'expliquer un petit peu. Alors, TGBT, c'est tableau général basse tension, TGBT, donc tableau général basse tension. C'est une armoire en fait de distribution d'énergie, on va avoir une alimentation et plusieurs départs qui alimentent différents équipements. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle en fait dans les usines des TGBT. Et ensuite, on a donc sur ces ouvrages, donc dans mon service, il y a du coup la une partie donc plus mécanique, donc qui gère vraiment les turbines, la partie régulation en huile, etc. Parce que les groupes sont alimentés avec de l'huile, avec toutes les tuyauteries, etc. On a la partie aussi écluse. Donc aussi, comme on gère la navigation, on doit aussi maintenir les écluses. Donc on a aussi un pôle qui gère aussi ça. Et enfin, donc il y a une partie électricité courant fort. Donc c'est celui où je suis. Et donc là, on gère des projets donc plutôt en haute tension. Tout ce qui se rapproche à la production. Donc on s'appare en fait de l'alternateur. Donc, qui produit l'énergie. Donc, ça peut être la reconstruction d'un alternateur. On refait le bobinage. On va refaire le contrôle. Enfin, on appelle ça un RGU. C'est un régulateur de tension. C'est ce qui permet de réguler, en fait, la tension qui va être fournie par l'alternateur. Donc, on produit l'énergie via l'alternateur. Et après, on va l'élever via les transformateurs. Des transformateurs, c'est un équipement qui permet de transformer la tension. Donc de passer soit de basse tension à haute tension, soit de haute tension à très haute tension. Donc c'est ce qui se passe généralement. On produit du 10 kV et on va monter à du 225 000, donc sur les lignes que l'on peut voir un peu partout dans les campagnes par exemple.
Ouais. Et pour se faire un ordre d'idée, un alternateur dans les usines hydroélectriques dans lesquelles tu travailles, ça fait quelle taille, ouais. Ça produit quelle puissance à vue de pif?
Alors à peu près, les alternateurs sont assez gros parce que comme on a des faibles vitesses de rotation, on a besoin en fait d'avoir des gros alternateurs pour ensuite obtenir la fréquence nécessaire pour la fournir au réseau. Comme le réseau, on est à 50 Hz, eh ben on doit fournir une fréquence à 50 Hz. Du coup, aujourd'hui, l'alternateur doit être assez gros parce qu'on tourne de manière très lente. Donc, par contre, si on est sur des turbines type Pelton, donc dans les hautes chutes, les alternateurs vont être beaucoup plus petits parce qu'ils vont tourner beaucoup plus vite. Donc, la fréquence de 50 Hz va être très facilement atteignable. Et aujourd'hui, bah, à peu près en dimension, on est à peu près à 10 mètres de ouais, 5, ouais, on va dire 7, 8 mètres de diamètre, on va dire, sur les petits. Alternateur. Après, c'est grosso modo, j'ai un peu les grandeurs, les sortes de grandeurs, quoi. Et on a à peu près 80 pôles. Donc, les pôles, en fait, c'est ce que je disais, c'est ce qui permet de fournir, en fait, la bonne fréquence en sortie de l'alternateur avec la bonne tension. Voilà. Donc, ça, c'est défini avec le constructeur. Hein. Nous, c'est en fonction de la vitesse de rotation, on va définir le nombre de pôles qui sont dans le rotor. Donc, c'est le nombre de bobines, en fait, nombre de bobines qu'on va créer pour ensuite fournir la tension. Donc voilà, c'est des gros, gros équipements.
Donc, ça veut dire que la fréquence, je ne suis pas trop calé en électricité, moi, mais la fréquence que tu vas injecter sur le réseau, elle est définie par le réseau.
C'est le réseau, c'est le réseau ERTE qui définit la fréquence.
Ouais, toi, en fait, pour le producteur, la fréquence, elle est définie par la turbine, quoi. C'est ça, par la vitesse de rotation de la turbine, par le nombre de pôles.
C'est ça. Et en fait, la vitesse de rotation, par exemple, si tu veux obtenir, on a une formule qui c'est la fréquence égale à la vitesse de rotation multipliée par le nombre de paires de pôles. Et en fait, en gros, plus on a de pôles, plus la fréquence va être faible. Donc en fait, pour obtenir en fait une fréquence assez importante, eh ben il faut qu'on augmente le nombre de paires de pôles pour que derrière, ben par exemple, si on a une fréquence vitesse de rotation de 3000 tours minute, eh ben on n'a pas besoin, on a besoin de qu'un pôle parce que 3000 tours minute correspond à 50 Hz. Ça c'est la vitesse, et plus on va diminuer cette vitesse de rotation, on passe à 1500, on passe à 750, et ben on va devoir augmenter avec des pôles supplémentaires pour que derrière on obtienne toujours les 50 Hz. Donc on appelle ça F égale PN, P égale le nombre de paires de pôles et la N est la vitesse de rotation. Donc plus on a de la vitesse est petite, plus va falloir mettre de pôles. J'essaie de synthétiser, mais en gros c'est ça, et c'est pour ça que derrière, et ben nous c'est le réseau qui nous impose. On doit se caler au réseau, donc on a 50 Hz et on doit avoir le déphasage. Donc après, ça, j'en parle pas trop, parce que c'est, ça, on va trop dans le technique. Mais faut qu'après les tensions soient correspondent bien aux caractéristiques réseau avec le bon phasage, on va dire, entre les phases. Voilà. J'ai été synthétisé, mais en gros c'est ça.
Ok, donc pour faire ton métier, il vaut mieux écouter en cours d'élec, c'est ça.
Voilà, après moi, mais là, j'utilise pas forcément ces notions-là. C'est juste faut avoir connaissance de ça. Et derrière, parce que nous, on remplace des équipements, on fait la maintenance. Donc en fait, on va remplacer des équipements. Donc faut savoir connaître en fait ces éléments-là pour que derrière, et ben, on puisse pas se tromper lors de rénovation ou voilà. Faut vraiment faire gaffe, quoi.
Ouais. Et ben justement, c'est quoi les autres compétences que tu utilises dans ton métier ?
Ben, beaucoup d'organisation. Donc gestion de projet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous la contrainte qu'on peut avoir, c'est-à-dire que comme je travaille sur plusieurs sites, je peux être amené à travailler sur plusieurs sites, on a une relation à avoir avec l'exploitant. C'est-à-dire que l'exploitant c'est lui qui gère son usine, il l'exploite, il gère la production, etc. Et derrière, nous faut qu'on puisse se pallier à ces contraintes parce que lui il a des équipes, il a aussi des maintenances de prévues, donc faut qu'on se cale par rapport à son planning. Et aussi, bah, si nous, par exemple, on fait des travaux, moi, ça m'arrive déjà de travailler sur des équipements, bah, faut voir s'il a une possibilité de faire les consignations, donc faire les arrêts machines ou les arrêts armoires pour que derrière, nous, on puisse intervenir en sécurité et qu'on puisse réaliser nos travaux. Donc, derrière, nous, une grosse partie de notre boulot, c'est la planification à la fois avec donc, l'exploitant et à la fois avec les entreprises, donc les fournisseurs qui bossent avec nous. Qu'on a beaucoup de fournisseurs qui font du clapage électrique, qui font des mises en place d'armoires électriques, des diverses interventions. Et nous, derrière, il faut qu'on cale tout ça. Et du coup, ben, en fait, on a ça. On a aussi les contraintes d'hydraulicité. C'est-à-dire que si on a en période de crue, ben, c'est pas la peine de faire de maintenance parce que on a besoin de tourner. Hein. Faut que les groupes y tournent. Donc derrière, il faut qu'on laisse les groupes disponibles à la maintenance, quoi. Enfin, à la production. Donc c'est ce qui s'est passé par exemple l'été dernier, au début de l'été, on a une grosse crue, c'était au mois de juillet 2022, on a une grosse crue et ben en fait là c'était très compliqué parce qu'il fallait qu'on produise et en même temps, ben à un moment quand on a trop d'eau, on peut plus produire. Donc on est au taquet et on peut même plus. C'est un peu un préjugé. Hein. Faut pas penser vous avez beaucoup d'eau, bah vous allez beaucoup produire. Non, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que nous, si on a trop d'eau après, bah ça devient même problématique. C'est comme une éolienne, s'il y a trop de vent, et ben elle va s'arrêter parce qu'elle va se mettre en sécurité. Donc ça va être pareil. S'il y a trop d'eau, bah nos groupes vont se mettre en sécurité, ils vont se mettre en une marche dégradée pour laisser passer de l'eau. Nous en cru, faut que nos usines s'effacent. Faut qu'on laisse passer l'eau et voilà. Mais en même temps, comme les ouvrages sont critiques, faut limiter les maintenances en crue. En crue, l'exploitant nous dira, c'est hors de question, vous venez pas sur site.
Est-ce que tu pourrais décrire un projet du coup de maintenance, un truc type hein, du début à la fin, je sais pas, un exemple concret que tu as abordé, peut-être pour qu'on comprenne bien comment ça fonctionne, les différentes étapes.
Ah, un projet de maintenance, ben je peux t'en dire un, voilà. Donc c'est comme je disais, donc le remplacement d'un transformateur haute tension. Donc c'est un transformateur qui évacue l'énergie donc de la production de l'alternateur jusqu'à l'évacuation sur le réseau RTE de transport de l'énergie, donc sur les câbles aériens. Donc d'abord, il y a une phase de pré-étude qui est définie. Donc, ça veut dire qu'on va récupérer un maximum de données sur les sites, sur bah, on va essayer de voir les archives, pour essayer de voir un petit peu les configurations qu'on a sur site, comment ça se passe en termes de d'intégration, on essaie de voir un petit peu les contraintes qu'on peut avoir, etc. Donc ça, c'est la partie pré-étude. Et ensuite, on a une partie, on va dire, lancement de projet. C'est-à-dire que nous, je dois passer en commission devant les responsables pour dire, OK, j'ai tel projet à lancer, est-ce que vous m'autorisez, entre guillemets, hein, à lancer le projet. Donc, ils vont me dire, oui, il n'y a pas de souci, ils veulent peut-être avoir des précisions sur ben, comment vous voyez le planning, planification à long terme, 2, 5 ans, si c'est un gros projet, ou quels sont les enjeux financiers. Donc, nous aussi, j'en ai pas parlé, mais on a aussi une gestion financière, c'est-à-dire qu'on gère nos projets, on doit être capable d'estimer, on va dire, les maintenances, les avenants, les travaux complémentaires, limiter au maximum, bah, on va dire, des plus-values, et ensuite ajuster les budgets en fonction bah, des travaux, en fonction des aléas, etc. Donc ça, ça doit être fait au fil de l'eau. Et après, donc dès qu'on lance on va dire l'étude, on rédige les cahiers des charges. Donc on va rédiger en fonction du besoin. Par exemple, pour un transformateur, on a décidé bah, qu'on va diviser le projet en deux lots. Un lot production, fourniture du transfo. Donc on va demander à une entreprise qui nous fournit ce transfo avec telle ou telle caractéristique qu'on va lui demander, et que lui va nous définir en fonction ben, des critères qu'on lui aura donnés. Et ensuite, lui va nous livrer le transfo sur site, il va d'abord le tester dans ses ateliers, il va nous donner une fiche signalétique, il va nous dire « Ok, le transfo, il a telle caractéristique, on les a validées. » Il va nous le transmettre sur site, nous le livrer sur site. Et après, on va gérer donc l'installation. Donc l'installation, ça va toujours être lui qui va le gérer, donc le premier lot. Et le deuxième lot, ben, on va avoir des travaux plus annexes, aménagement d'une loge, donc l'endroit où on va mettre le transfo, avec les configurations. Est-ce qu'on va modifier les rails? Est-ce qu'on va peut-être modifier les murs, les fixations des tuyauteries, parce qu'on a un système d'arrosage transfo qui permet de l'arroser s'il y a un incendie. S'il s'enflamme, ben, faut qu'on puisse l'éteindre. Donc on doit peut-être modifier ça. On a aussi tous les arrivées des câbles de contrôle commande du transformateur, tout ce qui est travaux annexes, on appelle ça. Donc ça peut être géré par un deuxième lot. Généralement on fait comme ça pour qu'on optimise, on va dire, les travaux, et que derrière, ben, chaque entreprise qui travaille sur différents lots, ben, elle soit la meilleure dans les meilleures conditions, et qu'elle soit vraiment les meilleures compétences, quoi, pour travailler sur tel ou tel sujet. Voilà. Donc il y a ça. Après, donc la plus complexité, donc c'est qu'on livre le transfo, mais derrière faut que nous on demande un arrêt de maintenance. Donc ça, c'est défini à l'avance via l'exploitation. C'est-à-dire qu'on va dire, bah ok, ce groupe-là, il va falloir l'arrêter parce que derrière, on a besoin de remplacer le transformateur. Donc on définit, bah ok, on vous valide une période de 2 mois. Donc là, vous avez 2 mois pour remplacer le transformateur, faire les essais. Voilà. Et derrière, du coup, ici, bah on va planifier tout ça, donc tout ce qui est planification. Donc on anticipe. Et ensuite, et ben après, on va demander à l'entreprise d'installer le transfo, de le raccorder, de faire tous les aménagements annexes. Et ensuite, ben on procède à la partie test, essai. Donc on a un cahier d'essai qui est rédigé par le responsable de l'indisponibilité. C'est lui qui va coordonner tous les corps de métier qui sont liés à l'indisponibilité et qui va coordonner les essais. Donc il va dire, ben, on doit faire un essai de mise en service du transformateur. Mais par contre, si mais en même temps dans cette indisponibilité, on doit changer un équipement sur l'alternateur, et ben on va l'intégrer dans le cahier d'essai. Donc à la fin, on va avoir une liste d'essais à faire. Et en fait, on va les valider. Et derrière, il faut qu'on s'assure que lorsqu'on arrive en fin d'indisponibilité, donc en fin d'arrêt, on est tout mis en service. On est tout validé. Voilà. Donc c'est à peu près la typologie. Voilà. J'essaie de synthétiser.
Est-ce que du coup, tu fais beaucoup de déplacements? À quoi ressemblent tes journées? Qui sont tes interlocuteurs?
Oui, je fais pas mal de déplacements. Tout dépend bien sûr de l'état du projet. Si on est en phase d'étude, ben, en rédaction de cahier des charges, on en fera peut-être moins parce qu'on n'a pas forcément besoin, sauf si on a besoin de récolter des infos. Mais voilà, ça dépend vraiment de la phase du projet. Si on est en phase étude, donc on en a moins. Après, on peut avoir être en phase de consultation. Donc là, on doit aller faire des visites sur site avec les entreprises, voir avec les exploitants pour voir les contraintes, etc. Donc ça, on est quand même amené à pas mal faire de déplacements. Et surtout après, en phase d'essai. Phase d'essai, c'est de mise en service. C'est-à-dire qu'on met en place, par exemple, on remplace un transformateur, on le met en place et il faut prévoir du coup toute la mise en service derrière avec les essais de tous les lots, donc tous les corps de métier on doit faire les essais pour qu'ensuite on rende à l'exploitation, on dise ok, on a le tampon, tac, on valide. Voilà. Donc là, par contre, il faut être carrément en permanence sur site. Pendant une, deux semaines, on va être 100% sur site. Voilà. Donc par exemple, moi, c'est souvent... Là, actuellement, moi, j'ai des projets transverses. Donc, du coup, ça m'amène souvent au moins une fois par semaine à me déplacer. Généralement, c'est toujours dans la vallée du Rhône. Hein, mais tout dépend après du besoin. Et après, bah, c'est souvent... Donc, soit on est à des fournisseurs, comme je te disais. Donc, c'est sur la journée où on fait des réunions sur site. Donc, moi, c'est important de se déplacer pour déjà voir les ouvrages. Si on est toujours au bureau, on va parler de deux trucs, on va pas savoir ce que c'est. Tu vas sur les usines, tu vois de quoi tu parles, tu vois de choses que tu ne verrais pas ailleurs. Et aussi, être en contact, toujours, on vient toujours aux exploitants, mais prendre contact avec eux pour que derrière, bah, les échanges soient fluides, ils puissent comprendre ton besoin et ils puissent adapter son plan de charge. Il puisse adapter ses contraintes, etc. Parce que si tu as des projets qui sont plus conséquents, eh ben, il faut pouvoir les caler quand même sur site. Donc, voilà. Donc, c'est assez complexe.
OK. Et donc, très bien. Et tes interlocuteurs, du coup, donc tu as parlé beaucoup des exploitants, tu as parlé des fournisseurs. Moi, j'ai une question bête. Quand il y a un besoin de maintenance, c'est qui le commande, ce besoin de maintenance?
En fait, il y a un service approprié dans la CNR qui gère la gestion des actifs. Ça veut dire que eux vont identifier via des lois de vieillissement, ils vont faire des relevés sur site, etc. Ils vont identifier l'état de vie des actifs, donc l'état de vie des équipements. Et c'est eux qui vont nous définir via des fiches de cadrage, on appelle ça, la maintenance nécessaire. Et après, moi, mes responsables vont me dire, bah, ok, Romain, là, actuellement, bah, on a reçu cette fiche de cadrage. On va avoir ce transfo-là à remplacer. Voilà. Donc, ça se passe comme ça. Nous, on est la partie exécution. Et après, il y a une partie plus étude où ils vont définir, derrière, l'état de vie des actifs. Et notamment, aujourd'hui, pour encore plus optimiser les maintenances, et définir vraiment celles qui sont plus critiques, on met en place, on va dire, des capteurs, on appelle ça la partie 4.0. On va mettre en place du monitoring sur des équipements. Donc, monitoring, c'est vraiment du remontée d'informations sur des données, par exemple, des huiles, des transformateurs, ou encore, on va avoir des mesures de température sur différents équipements. Et ça va permettre de déterminer l'état de vie des actifs et savoir s'ils sont en phase de vie vieillissante ou pas. Et ça permettra d'affiner un peu plus les maintenances. Aujourd'hui, ils sont encore en phase de mise en place, mais dans les années futures, ce sera le cas. C'est vraiment de l'optimiser les maintenances, parce que aujourd'hui, plus ça va, plus on monte en charge, parce que les ouvrages vieillissent, on a de plus en plus de maintenance, et il faut absolument maintenir l'exploitation et pas qu'on ait d'avaries. L'objectif, c'est que nous, on limite au maximum les pannes, les arrêts avec ou endommager des matériels, quoi. Donc ça, c'est l'intérêt, c'est que on intervienne avant qu'il y ait des problèmes.
D'accord. Voilà. Eh ben, c'était quoi tes motivations pour te tourner vers l'hydroélectrique ou vers la maintenance?
Ça c'est vraiment par hasard, en fait, parce que moi, j'avais pas forcément, je connaissais pas du tout l'entreprise avant de rentrer dans la boîte. Ça, c'était, j'ai connu qu'au moment où j'ai vu l'offre, en fait, sur un réseau social, j'ai vu, ah, tiens, il y a des postes à la CNR. Voilà. Et après, c'est là que je me suis renseigné. Et c'est vrai que, en fait, j'avais fait plusieurs expériences en école d'ingé à l'INSA. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de faire des travaux qui m'ont permis de m'aiguiller, en fait, sur ce que je souhaitais faire. C'est-à-dire que les premières expériences m'ont pas forcément plu. Et ça m'a permis de me dire, OK, bah là, tu ne peux pas faire ça, Romain, il faut que tu vois ailleurs. Et derrière, bah,
c'est quoi que tu ne voulais pas faire?
Bah, par exemple, j'avais fait 6 mois dans l'entreprise Michelin à Clermont-Ferrand, dans une partie plutôt programmation d'automatisme, etc. Donc cet aspect-là m'a moins plu parce que c'était vraiment trop de la conception, trop de on était trop limité et j'avais pas forcément, c'était pas forcément le domaine qui m'a plu. Après, du coup, ben, c'était en 4e année. Et en 5e année, du coup, j'ai fait un autre stage. Donc, c'était plus en responsable d'affaires, chargé d'affaires, dans le tertiaire. Et là, pareil, j'ai vu des avantages, des inconvénients. Donc, j'ai pu dire, OK, j'ai bien aimé l'aspect gestion de projet, c'est super intéressant. Par contre, le domaine du BTP, ben, c'est pas là où j'irai parce que je trouve que c'est trop intense. C'est un univers vraiment particulier avec, il y a pas forcément des fois du respect envers les entreprises parce que l'intérêt c'est que le client, lui, veut une sortie de chantier, une mise en service, une livraison, pardon, à telle date et c'est non négociable. Donc toi, tu te tapis en 4 et c'est ton affaire. Donc, je trouve que ça m'a permis donc d'apprendre pas mal en gestion de projet. Par contre, du coup, ça m'a permis de me dire, ah ouais, donc ces domaines me plaisent moins, je pense que je suis peut-être mieux fait pour l'industrie. D'où le passage après dans la production d'énergie. Et franchement, là, c'est intéressant parce que là, la différence du tertiaire, c'est qu'aujourd'hui, on a des ouvrages qui existent, on a quand même le temps de faire les choses. On a la réflexion, on a des choses qui existent, qui fonctionnent. Et derrière, il faut juste que... Ben, on maintient nos ouvrages, quoi. Donc, on a quand même une meilleure réflexion que hier.
Ok, d'accord. Et est-ce que l'aspect environnemental, les aspects éthiques, c'est important dans toi, dans ta façon de penser? Et est-ce que ça entre en compte dans ton métier et même dans ta façon d'agir au jour le jour dans ton métier?
Oui, c'est très important aujourd'hui de penser à ces problématiques. Parce que c'est vrai que en termes de fabrication, en termes d'impact sur l'environnement, nous l'intérêt c'est qu'on limite au maximum, aussi bien en termes de pollution directe, donc que ce soit la pollution des eaux, etc. Parce qu'il se peut que des fois, ben dans les usines, il y ait des fuites d'huile, etc. Donc ça part directement dans le Rhône. Donc ça c'est des choses qu'il faut anticiper. Mais derrière, c'est vrai que c'est pas forcément facile parce qu'aujourd'hui il y a des principes, il y a des choses qui sont déjà qui sont comme ça, quoi. Et en fait, il faut arriver à changer les habitudes des gens. Et nous, on est là pour ça, les jeunes. C'est-à-dire que nous, l'intérêt, c'est qu'on change la vision, on essaie de changer les visions des gens. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ou les collègues, des fois, ça fait 30 ans qu'ils sont là. Oh, l'aspect environnemental, ils s'en foutent un peu, quoi. Alors qu'aujourd'hui, nous, notre direction nous porte là-dedans. C'est-à-dire ils développent des projets, ils développent vraiment des solutions pour optimiser, pour être vraiment dans la sobriété énergétique et également dans le respect de l'environnement. Donc c'est vrai que, par exemple, moi, c'est que dans mon métier, il n'y a pas forcément, mis à part les matériaux, le choix des entreprises aussi. En termes d'éthique, si c'est une entreprise qui est vraiment impactante sur l'environnement, on va essayer d'éviter de passer par elle. Par exemple, l'utilisation de tel ou tel matériau, etc. Donc ça, c'est très important. Et derrière, on a aussi donc tout ce qui est, par exemple, moi, j'ai un projet sur de remplacement de transformateur. Et on pense aussi à l'aspect fin de vie. C'est-à-dire que nous, ce qui est important, c'est que derrière, on va enlever un vieux transformateur, il faut penser à sa destruction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va pas prendre le transfo, le foutre dans la nature et dire « bon, ben c'est bon, on a fini ». Il faut penser quand même à la destruction, se dire « ok, on a tel ou tel matériau, attention, on a du plomb, on a tel truc ». Donc, on a des filières de traitement spécifiques qui sont en cours de développement. Donc, aujourd'hui, on a carrément des référentiels chez nous qui sont en train d'être rédigés, qui vont nous aider sur le traitement des déchets. Et ça, c'est vraiment le plus gros maillon, en fait, on va dire. C'est que nous, on doit s'assurer en tant que producteur de déchets, c'est-à-dire que nous, en entreprise, nous enlève dépose des équipements, c'est considéré comme un déchet à nous, qui appartient à la CNR. Et nous, on doit s'assurer que ce déchet finisse bien dans une déchetterie ou dans un endroit spécifique et qu'il soit bien traité. Parce qu'il s'avérait qu'avant, eh ben ouais, l'entreprise elle s'en fout, vas-y qu'elle dépose le déchet n'importe où, on les met sur les berges n'importe où. Donc ça on le veut plus. Donc c'est vrai qu'on essaie de, quand même de développer des alternatives pour que derrière on soit plus respectueux de l'environnement. Donc ça c'est pour moi c'est un des plus gros éléments qui on va dire qui est en lien avec moi quoi sur la partie respect de l'environnement.
Et dans lequel t'as ton rôle à jouer et
totalement. Ouais. Voilà, c'est nous on demande, on appelle ça des, même aujourd'hui c'est même l'État qui impose ça. C'est-à-dire qu'il a, on a une plateforme en ligne qui s'appelle Track Déchets et qui va définir les solutions, enfin il va définir en fait le séquencement et tous les contributeurs à la destruction du déchet, ils vont devoir signer cet élément ou le remplir. Donc tout ça, c'est maintenant, c'est cadré et on essaie de se plier à ça, quoi. Voilà. On ne veut plus de dérives par rapport à ces gestions-là. Parce que quand on regarde tous les déchets qui sont récupérés aux ouvrages, parce que dans le Rhône, il y a quand même pas mal, et on voit quand même qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Voilà. C'est très problématique. Hein. Quand on voit sur les berges, il y a des bagnoles, il y a plein de déchets. Enfin, des fois, ils font des sondages, ça fait peur, quoi. Donc tu te dis... pour la pollution de l'environnement, on a quand même beaucoup de travail. Et nous, derrière, on essaie, comme on est concessionnaire, on essaie de faire notre possible pour gérer, pour limiter ces impacts. Quoi.
Ok. Non, c'est très clair. C'est très clair. Bah, écoute, j'ai pas de questions en plus. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant la fin de l'interview ? Un conseil à donner à toi d'il y a 4 ans qui sait pas encore ce qu'il veut choisir ?
Je sais pas. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Hein. C'est vrai que lorsqu'on arrive sur l'ensemble de l'INSA, on se dit « Ah ouais, mais qu'est-ce qu'on va faire ?» C'est pas facile. En fait, on se dit « Quel métier on va faire ?» Et après, on essaie de se projeter, se dire « Ok, on a tel ou tel truc. » Faut arriver à se projeter sur son avenir. Et le plus dur, c'est de pas se tromper dans son premier emploi, de trouver ce qui nous plaît. Donc l'important, c'est de vraiment… certes, il y a le salaire derrière, mais… Moi aussi, ce qui est important, c'est si ça, ce qu'on fait, ça nous plaît pas, ben ça va pas quoi. Faut que derrière, on ait une plus-value, qu'on se dise ah ouais, à la fin de la journée, j'ai fait ça, je suis content, j'ai fait ça, voilà. Et derrière, et ben après tout découle. Donc si on est bien être au travail, faut tout va bien, etc. quoi. Ouais. Donc voilà, moi si je dois donner un conseil, c'est vraiment prendre son temps. On n'est pas un mois près. Mais prends son temps pour trouver un boulot qui nous plaise sur son domaine de prédilection.
Et voilà, cet épisode est terminé. Merci encore à toi, Romain, pour nous avoir partagé ton expérience. Si les métiers de la production d'énergie vous intéressent, vous pouvez écouter l'épisode 7 avec Alban Martinez del Queyrou, où nous parlions de sûreté nucléaire. Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes en cherchant Ingénieur Avenir ou INSA dans votre application de podcast préférée. Ingénieur Avenir est disponible sur Podcast Addict, Apple Podcast, Spotify et toutes les autres applications de podcast. Ce podcast a été enregistré et réalisé par Léo Pernet-Minier avec l'aide d'Amélie Berthe. Ce podcast est le fruit de la collaboration de la pépinière Alumni INSA Lyon, entité junior d'Alumni INSA Lyon, avec la chaire Ingénieur INSA, philosophe en action. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode du podcast Ingénieur Avenir.